Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Il faut qu'on arrête un tout petit peu de se regarder le nombril et qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, quoi. Quand on voit l'état du Venezuela, quand on voit l'état du Chili, quand on voit l'état du Liban, quand on voit l'état de... Mais voilà, je parle de pays qui fonctionnaient avant et qui fonctionnent plus. Hein, donc, évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont encore plus mal, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je voudrais juste dire, hey, les gars, oh, regardez un peu ce qui se passe autour, quoi. Et arrêtons de tout le temps dire que la vie est horrible en France, quoi, parce qu'elle est pas horrible. On a une vie qui est compliquée. Oui, effectivement, ben il y a des grèves. Oui, il y a des mouvements sociaux. Oui, il y a des contestations. Oui, il y a des manifestations. Oui, il y a des violences, etc. Oui, d'accord, ok. Mais on vit dans un pays qui est quand même plutôt pas mal foutu, quoi. Et ça, je trouve que c'est important de le dire.
Épisode à contre-emploi, je vais vous expliquer pourquoi. Mon invité cette semaine est acteur, réalisateur, scénariste et comédien. Il nous a fait beaucoup rire avec Jean-Paul Rouve parmi les Robins des Bois, et aussi en associant son talent de cinéma à celui d'autres illustres personnalités comme Dominique Farrugia et Alain Chabat. Pourquoi je vous dis à contre-emploi? Parce qu'en fait, au fil de la discussion, je suis certaine que tout comme moi, vous aurez le sentiment de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Il est profondément humble et intelligent, et avec lui nous avons parlé de ses parents 68ards, de son enfance, de ce que c'est qu'être un homme de 50 ans aujourd'hui, de l'échec, de paternité, de la dyslexie, de ses engagements humanitaires, de ses projets au cinéma comme au théâtre, de la vie après la mort, d'Edouard Baird, mais surtout d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, l'hypersensibilité. Pour ne rien vous cacher, j'ai encore une fois oublié le micro, emporté par ses propos pleins de bon sens et d'impact positif. Un grand merci à Sarah Connard, sans qui ce podcast ne serait pas possible. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole au génial Maurice Barthélémy. Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Avec plaisir.
Je suis très honorée, ravie. Bien entendu, tout le monde te connaît. Enfin, beaucoup de monde te connaissent.
Ouais, enfin, tu dis ça, mais je pense pas tant que ça. Mais c'est pas grave.
Bah, t'es quand même très connu, mais... Malgré tout, je suis obligée de te poser la question que je pose à tous mes invités quand je les reçois.
Oui.
C'est est-ce que tu peux te présenter,
oui,
autant
tout à fait.
Personnellement que professionnellement?
Alors, donc, je m'appelle Maurice Barthélémy, j'ai 50 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, notamment j'ai fait partie des Robins des Bois, avec Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Pierre-François Martin Laval, Pascal Vincent et Élise Darnicole. On s'est séparés il y a une quinzaine d'années, de façon tout à fait courtoise. Et puis, après avoir fait un film qui s'appelait Re. Mmh. Et puis, par la suite, bah, chacun a suivi son petit bonhomme de chemin. Et moi, j'ai décidé de plutôt m'engager vers la réalisation. Mmh. Et j'ai fait 6 ou 7 films. Et aujourd'hui, ben, je me vois plus comme un réalisateur que comme acteur. Mais bon, ça m'empêche pas par ailleurs de jouer de temps en temps. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je suis papa d'une fille de 14 ans qui vit à l'autre bout du monde. Et puis, voilà, je suis quelqu'un qui suis assez content d'avoir... 50 ans. En fait, je trouve que c'est un super âge.
Alors, tiens, mais ça peut être intéressant qu'on en parle.
Ouais, si tu veux.
Après, non, mais normalement, je suis censée te poser des questions sur ton parcours, ta famille, tout ça. Mais c'est vrai que là, je suis entourée de gens qui... Enfin, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui vont sur la cinquantaine.
Ouais.
Des hommes, des amis, voilà. Qu'est-ce que ça représente d'avoir 50 ans pour toi?
C'est un peu... Moi, ça me faisait bizarre quand je me suis rapproché de la cinquantaine, parce que je me souvenais des anniversaires de mes parents à 50 ans, tu vois. Et vraiment, pour moi, c'était un âge avancé, quoi. Je me souviens qu'on avait offert une chenille à ma mère. Donc, si tu veux, c'était quelque chose qui m'avait marqué 50 ans. Mmh. Et à l'époque, pour moi, ma mère était vieille à 50 ans. Mmh. Et bon, alors je me suis dit, ok, bah maintenant, c'est à mon tour d'être vieux. Mais j'aime bien l'idée d'être un peu vieux.
C'est-à-dire
que je fais pas partie de ceux qui...
Pardon? C'est pas vraiment vieux aujourd'hui.
Non, c'est pas vraiment vieux, mais c'est quand même la moitié d'un siècle, donc c'est pas rien. Et puis surtout, je trouve que c'est bien d'assumer le fait que, ben, l'air de rien, on a vécu. Et moi, je suis content de ce que j'ai vécu. Alors, tout n'a pas été simple, mais je suis vraiment content d'en arriver là aujourd'hui avec une sorte de sérénité. Et je me dis, waouh, c'est chouette. J'ai fait ce que je voulais faire comme métier. C'est pas tous les jours facile, mais j'ai une bonne bande de potes avec moi. J'ai une famille qui va plutôt bien. J'ai construit quelque chose de plutôt sain. Et en fait, j'envie personne, moi, sur cette terre. Donc finalement,
c'est une bonne chose.
Je suis assez serein.
Je crois que ça sert à rien d'envier les gens.
Non, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai qu'on parle souvent de la crise de la cinquantaine.
Ouais.
Mais tu m'as pas l'air d'être en crise du tout.
Non, je suis pas trop en crise. Non, très franchement, non, je suis pas en crise, non. Non.
Ça m'interpelle parce qu'effectivement, je trouve que c'est... moi, j'ai vu beaucoup d'hommes en seconde jeunesse, tu vois, 50 ans plus tôt, et essayer de changer des choses dans leur vie. Toi, t'as eu 1000 vies.
Mm-hmm.
Enfin, t'as fait tellement de choses. Je suis impressionnée par tout ce que tu as fait. Enfin, t'as essayé énormément de choses et en général, ça a marché. Non?
Vu de mon point de vue, j'ai toujours l'impression que c'est la galère, quoi. Après, tant mieux si t'as le sentiment que ça a marché. Mais ouais. Bon, moi, par exemple, j'ai fait des films qui ont jamais cartonné. J'ai fait des films qui ont toujours fait le nombre d'entrées qu'il fallait pour se rembourser, grosso modo. Ouais, c'est déjà bien. Mais j'ai jamais fait d'énormes succès. Ce qui n'est pas en soi une frustration, parce que ouais. Je me dis bon, bah voilà, c'était les films que je voulais faire, et donc je suis plutôt content, même si j'ai sûrement planté des films, mais j'ai toujours le sentiment que c'est compliqué. J'ai jamais un sentiment de devoir accompli où ouais. Je me dis waouh, je suis arrivé. Non, il y a toujours quelque chose, une sorte de, j'ai toujours envie que ça soit mieux. Pas forcément sur les entrées, hein, je m'en fous des entrées. En soi, ce qui compte dans la vie, c'est de faire le métier qu'on avait envie de faire, c'est d'aller au bout des choses. Mmh. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben il faut essayer d'en tirer une leçon. Mais j'ai toujours un peu je vois toujours un peu le verre qui est à moitié vide. Mmh. Et c'est ça qui me donne la motivation de me lever le matin, me dire il faut remplir le verre là.
Hmm. T'as eu le sentiment d'avoir échoué quelque chose ou pas?
Ah ouais.
Ouais.
Bien sûr. Moi, j'ai souvent. Moi, je trouve que c'est hyper important de prendre conscience de l'échec et d'appeler un chat un chat et de se dire là, je me suis planté. Pourquoi? Et surtout, essayer de trouver la cause, non pas chez l'autre, mais chez soi, quoi. Hmm. Et du coup, de me dire bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait qui a merdé, quoi? Mmh. Et c'est important parce que plus tu te plantes, plus tu comprends par la suite des choses sur toi-même, quoi. Et c'est ça qui compte, c'est comprendre pourquoi est-ce que j'ai planté tel ou tel truc. Et évidemment qu'il y a des rencontres où les gens ne t'aident pas. Évidemment que tout d'un coup, tel ou tel distrib va choisir une affiche affreuse et va sortir le film avec une bande-annonce qui correspond pas au film. Oui, ça arrive. Mais généralement, quand on se plante, vraiment, l'échec vient de soi. C'est ce que je me dis.
Et c'était plutôt perso ou pro ?
Bah, il y a de tout. Il y a des échecs professionnels où tout d'un coup, je suis pas content de la sortie d'un film parce que, bah voilà, ou que le film correspond pas tout à fait au film que je voulais faire. Ou voilà, donc ça, il y a des échecs comme ça. Puis il y a des échecs personnels, sentimentaux, sur lesquels on se dit, bah ouais, là, j'ai merdé aussi, quoi.
Donc on va revenir un petit peu à ton parcours.
Oui.
Enfin non, pas ton parcours, parce que je t'ai dit en amont de l'épisode, juste avant d'appuyer sur le bouton on, je t'ai dit que j'avais entendu un podcast, je suis absolument pas contre la pub d'autres podcasts, au contraire. J'ai entendu écouter un podcast où tu parlais beaucoup de ton parcours, etc. Donc c'est vrai qu'en commençant, je t'ai plutôt demandé de me parler du présent, du futur, de ce qui t'anime, etc. J'ai cru comprendre que tu venais d'un environnement. J'ai été assez surprise d'ailleurs. J'ai entendu dire que tu as été très tôt livré à toi-même.
Ouais.
J'ai trouvé ça très étonnant.
Oui.
Enfin, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et en fait, je vais après faire un lien avec ton parcours, etc. Mais c'est intéressant de parler de toi enfant au sein d'un foyer qui a priori était entre guillemets géré par des parents qui étaient
ouais, ils étaient très originaux,
particuliers.
Ouais.
Mmh. mais est-ce que tu peux juste en rappeler, enfin,
bah,
en parler
gros,
un tout petit peu parce que
voilà, je suis issu d'une famille de trois grandes sœurs. Enfin, j'ai trois grandes sœurs et mes parents étaient des vrais 68ards, quoi. Mmh. On va les qualifier comme ça. Mon père avait fait Sciences Po. Il s'était engagé dans une voie diplomatique. Il était attaché culturel. Il avait rencontré ma mère à Sciences Po aussi, sauf qu'elle, elle a pas terminé ses études là-bas et elle l'a suivi un peu à travers le monde. Mmh. Et puis mon père a fait ça pendant une dizaine d'années et je suis né en Bolivie. Du coup, une de mes sœurs est née en Colombie. Et puis il s'est rendu compte à ce moment-là que cette voie, ben, il avait été au bout. Et il a décidé de devenir menuisier. Et oui, à ce moment-là, il rentre en France avec toute la famille et il s'établit en Picardie. Il fait 3 ans de formation professionnelle au fin fond de l'Aisne. Et là, il devient menuisier. Mais menuisier, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est une baraque toute pourrie dans un petit village qui s'appelle Verberie dans l'Oise. Et là, et ben, il a un atelier avec d'autres menuisiers qu'il avait rencontrés en formation et un atelier un peu alternatif parce qu'on est dans les années 72, 13, 14. Donc on est en pleine période du retour à la terre de toute cette génération là. Donc dans cet atelier un peu alternatif, et ben il construit des meubles, des escaliers, des bibliothèques pour ses anciens collègues de Sciences Po, de machin, de vidéo. Donc il monte à Paris et il passe quand même pour un marginal parce que voilà. Et en même temps, mon père était très intello, donc ça faisait partie de sa démarche intellectuelle.
Il était ethnologue de formation, non, c'est pas ça.
Il était plutôt au départ il est devenu ethnologue par la suite.
D'accord,
en fait, ouais, okay. Parce qu'une fois qu'il a eu toute cette période de menuiserie qui a duré une dizaine d'années, et ben en fait pareil, il s'est dit bon, je suis arrivé au bout. Et là, à ce moment-là, il a migré vers un job qui réunissait un peu ces deux compétences, où il est devenu expert pour des organismes type Europe ou ONU, dans les pays en voie de développement autour de l'artisanat. Et à ce moment-là, donc il est envoyé en mission en Haïti, par exemple, et c'est là qu'il devient ethnologue, parce qu'en fait, il observe le pays d'une certaine façon et il écrit sur le pays en même temps qu'il est en mission là-bas. Okay. Et c'est comme ça que, oui, par la suite, il est devenu ethnologue et un des grands spécialistes d'Haïti aujourd'hui qui est encore assez reconnu parce qu'il a sorti des livres qui étaient tout à fait, qui encore aujourd'hui font référence, ouais.
Et une maman conteuse,
ouais. Au départ, la maman était femme de diplomate, donc tout ce qui est de plus protocolaire. Et puis après, quand elle se retrouve dans l'Oise, ben il faut bien amener un petit peu d'argent à la famille. Donc elle devient prof d'espagnol dans un lycée du coin. Elle s'ennuie profondément. Et puis elle se rend compte qu'en fait, elle a un besoin de monter sur scène. Elle a un besoin de d'exprimer quelque chose qui vient de son pays, puisqu'elle était d'Haïti. Et à ce moment-là, elle devient conteuse et elle raconte des contes issus de la tradition orale haïtienne qu'elle adapte à sa façon. Et ça, elle en fait son métier. Et à l'époque, il y avait très peu de conteurs en France.
Le nom est magnifique. Et je trouve que ça devrait être réhabilité.
C'est vrai. Ah ouais, mais c'est ça revient très très fort, hein, le métier de conteur. Et elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Et pareil, c'était une conteuse qui s'appelait Mimi Barthélémy, qui a été assez reconnue dans sa profession. Et sauf que moi, je détestais voir ma mère sur scène.
Pourquoi ?
J'avais un trac fou. J'avais le trac pour elle.
D'accord.
Parce que quand je voyais ma mère, je me disais, mon Dieu, elle va se planter, elle va pas savoir son texte, c'est horrible. Donc, moi, je me mettais au fond de la salle et je regardais entre mes doigts, quoi.
C'est fou, ça.
Parce que vraiment, je flippais vraiment pour elle.
Mais pourquoi ? Parce qu'elle l'aurait mal vécu ou
ben
tu
non,
l'aurais
parce
mal
que
vécu.
Je pense que j'ai toujours eu une sorte de surempathie vis-à-vis de un peu tout le monde et je me mettais à sa place, quoi. Et je me disais, oh, mais quel enfer de se retrouver sur un plateau face à des gens, devoir dire un texte, etc. Tout ça me paraissait totalement terrifiant.
C'est pour ça que tu l'as fait ?
Alors au départ, j'ai pas voulu le faire justement à cause de ça, c'est-à-dire que j'étais quand même un petit garçon assez turbulent et surtout très imaginatif, qui racontait beaucoup d'histoires, qui la ramenait sans arrêt, enfin assez turbulent. Et quand il s'est agi de trouver une voie et un sens à ma vie en quittant le bac, enfin en quittant le lycée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et une de mes tantes m'a dit, mais fais du théâtre, t'es fait pour. Et je dis, bah non, surtout pas. Moi, je veux pas me retrouver à la place de ma mère sur un plateau à flipper devant des gens. Et en fait, elle me dit, mais ça, tu t'en fous, c'est pas le problème. Pour l'instant, rentre dans un cours de théâtre, vois si ça te plaît. Et puis, tu décideras après. Et puis, effectivement, là, je suis rentré dans un cours de théâtre plutôt que d'aller à Nanterre, où j'étais inscrit en histoire. Et là, en 2 heures, je me rends compte que c'est exactement ce que je voulais faire depuis toujours. Mais je me suis rendu compte que j'ai toujours fonctionné un peu comme ça dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai toujours repoussé ce qui m'attirait. C'est un peu étrange comme phénomène.
Peut-être quel signe astrologique ?
Je suis Gémeaux, ascendant Vierge.
Et bienvenue chez Christina.
Donc ça fait beaucoup de monde en astrologie, mais j'ai toujours été j'ai toujours repoussé ce qui me paraissait trop évident. Je ne fonctionne plus comme ça parce que j'ai fait un travail sur moi, parce que j'ai compris au bout d'un moment que non, c'était le contraire. Il fallait aller vers ce vers quoi on était attiré et qu'il fallait arrêter de se compliquer la vie. Mais très longtemps. Mais tu sais que ça va jusqu'à un point, mais très bizarre. Je te donne un exemple. À Paris, il y a des passages couverts, d'accord ?
Ouais.
J'ai toujours adoré les passages couverts. Je trouve que c'est les plus beaux lieux de Paris. Bon, je m'interdisais de rentrer dans les passages couverts parce que je savais que c'était tellement un endroit que j'adorais, que j'allais être attiré par et de vouloir y vivre, et j'allais être frustré.
Attends,
à l'idée de ne pas pouvoir vivre dans un passage couvert.
Mais un passage couvert, t'as un exemple là, parce que.
Ben, je te donne le passage Choiseul, le passage des panoramas,
d'accord,
vois. Ok. Et donc, quand je passais devant un passage, je regardais, je me disais, putain, c'est magnifique, mais je rentrais jamais dedans. Jusqu'au jour où je suis rentré dedans parce que, en fait, j'ai trouvé un appartement en location là-bas, et c'est à ce moment-là que je suis rentré dans les passages et que j'ai vécu dedans, et par la suite, j'ai acheté un appartement dans un passage, comme si, en fait, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du, je sais pas comment dire, du destin, qui m'attirait, mais je n'y allais pas parce que c'était pas, il y avait quelque chose qui m'effrayait, où j'étais pas prêt, et le jour où je suis prêt, ben, je franchis le pas. Et ben, ça a fait ça toujours un peu, dans des étapes importantes de ma vie. C'est des trucs que je repoussais, et qui finalement, au bout d'un moment, boum, je fais le pas pour y aller. C'est étrange, hein. C'est compliqué, hein, comme système.
Ben, je trouve pas tant que ça, tu vois. Parce que je pense que les gens instinctivement savent ce qui est bon pour eux, ou je pense, d'une certaine manière. Enfin, après, ça dépend de quelle typologie de personne. Mais non, et après, le passage de cap peut faire peur. Tu vois, ça peut. Si tu as un ordonnancement très précis dans ton esprit de là où tu veux aller, en général, il y a un plan d'étapes. Et peut-être que les étapes. Enfin, ça peut effrayer.
Ouais.
Peut-être de prendre sa direction.
Ouais.
Peut-être un truc comme ça.
Ouais, je pense que c'était
pas.
Ça.
Enfin, je sais mais pas faire
bizarre,
de la psychanalyse de comptoir, mais
c'était sur des lieux généralement. Et tout d'un coup, j'avais.
Ah, des lieux.
Ouais, c'était vraiment des trucs très précis, quoi. Un jour, je me souviens, par exemple, j'arrivais sur l'esplanade des Invalides et je me disais, ah, j'adore cet endroit, mais il y a quelque chose qui fait que il me repousse, quoi. Ou je me sentais pas à l'aise. Puis finalement, un jour, j'ai vécu sur cette esplanade. J'ai eu un appartement. J'ai vécu avec la maman de ma fille là-bas. Comme si j'avais une sorte d'alarme, de prémonition,
oui,
à l'avance,
oui, c'est
que
ça.
J'allais avoir
c'est une vision,
une histoire avec ce lieu.
Ouais.
C'est étrange.
Bah, peut-être une vision.
Ouais, je ne sais pas. Pourtant, je ne vois pas forcément dans le marc de café ni dans les cartes. Mais voilà, c'est des intuitions. Voilà, on va appeler ça comme ça.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, autant positivement que négativement. Je veux pas remuer le passé douloureux, etc. C'est pas du tout l'idée. Si tu devais me donner un merveilleux souvenir et un truc qui t'a achevé, quoi.
Ok. Alors, merveilleux souvenir, je vais être un peu bateau. Je vais t'en donner deux. Comme ça, je serais pas totalement cliché.
Mais c'est naissance pas cliché de dire la naissance de ta fille.
Ouais, la naissance de ma fille, c'est un truc dingue. C'est un truc dingue parce qu'en fait, j'assiste à la naissance de ma fille, mais totalement en touriste. C'est-à-dire que les gens qui disent qu'ils tombent par terre, à la renverse, tellement le choc est fort, moi, j'assiste à ça, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que 9 mois plus tard, il y a un enfant qui sorte du ventre de ma compagne et que cet enfant crie et qu'il est tout sanguinolent et là, je suis en train de lui couper le cordon. Donc, tout ça est trash. Et en même temps, il y avait une sorte de froideur absolue au moment où j'étais en train de vivre cet événement. Mais c'était tellement puissant que je pense que c'est ma nature, quoi. Quand il y a quelque chose de trop fort qui m'arrive, j'ai une sorte de sas, de protection qui fait que l'événement, je le vis tout d'un coup de façon un peu distanciée. Mais c'est vrai que après coup, devenir père est le truc le plus dingue qui me soit arrivé. Parce que on ne vit plus sa vie pour soi, on la vit pour un enfant. Cet enfant devient autonome, il a sa propre vie, et bref, c'est un truc de dingue. Donc, premier choc positif. Le second truc, j'ai un souvenir génial de la fois où on rencontre Dominique Farrugia avec les Robins des Bois. Il vient nous voir au fin fond de Fontainebleau, dans une grange toute pourrie, pour assister à une représentation du spectacle qu'on faisait, qui s'appelait Robin des Bois. Il se marre pendant tout le spectacle, et à la fin il nous dit bah, ça vous dirait que on se retrouve demain à mon bureau? Et nous, on se pointe dans son bureau, qui est donc le bureau qu'il partage avec Chabat, et là on a l'impression de rentrer à Hollywood. C'est-à-dire que là on se dit oh la vache, on est dans le sein du sein, quoi. C'est-à-dire que il y a Chabat dans le bureau d'à côté, il y a des affiches de Didier, il y a des affiches de Delphine Ivan Zéro, et puis là on vient voir Farrugia, et Farrugia nous reçoit dans son bureau, et là il nous dit ça vous dirait que je vous produise au théâtre? Et puis là on a eu un sentiment, mais de joie comme j'en ai peu eu dans ma vie, parce que c'était, on avait attendu ça depuis tellement longtemps en tant que c'était un Graal, quoi. Parce qu'en plus, on touchait aux nuls. Les nuls, pour nous, c'était notre référence absolue.
Bien sûr.
Et tout d'un coup, bah, que le nul nous dise « Est-ce que vous voulez que je vous produise ?» C'était une joie de dingue.
C'est extraordinaire.
Ouais. Alors maintenant, on va parler d'un truc un peu moins rigolo.
Mais t'es pas obligé, hein, si tu te sens pas
forcé. Si, je pense que c'est important. Un moment très, très, très dur de mon histoire... qui a influencé un film que j'ai fait qui s'appelle Papa, qui est en fait le jour où ma sœur perd son enfant. À cette époque, son fils a 1 an et demi et il se noie. Et ça se passe à la campagne, près d'une rivière, et il échappe à la surveillance de la personne qui s'occupait du petit, et puis c'est le drame, quoi. Et ça a été un événement majeur dans ma vie, parce que pour moi c'était inconcevable qu'un enfant meure. Pour moi, ça n'existe pas, quoi. Ça va à l'inverse de la logique, quoi. Et ça a été un tel bouleversement dans la vie de ma sœur en premier, dans ma vie, dans la vie de mon père qui s'en est jamais remis, parce que c'est lui qui a dû le sortir de l'eau, essayer de le réanimer, etc. Puis il n'y est pas parvenu, il s'en est beaucoup voulu. Et ça a été un tel choc dans notre histoire que encore aujourd'hui, je pense que on en paye les conséquences. Pourquoi je parle de cet événement? Parce que j'ai été extrêmement choqué récemment du comportement des députés de La République En Marche, qui ont voté contre le fait qu'il fallait 12 jours de récupération plutôt que 5, alors qu'en fait, il faut presque une vie de récupération. Et j'ai trouvé ça tellement choquant, parce que à quel moment ces gens se sont mis à réfléchir et se sont dit on va se mettre à la place d'un parent qui perd un enfant et qui se retrouve au boulot 5 jours plus tard? Mais attends, c'est un truc de dingue. Et là,
frissons.
Je me suis dit, ils sont totalement déconnectés, ces gens-là. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment.
Fais gaffe, parce que je suis capable de pleurer, moi, dans les podcasts.
Donc voilà, ça a été un événement fort, mais qui c'est un événement triste, qui a quand même m'a permis de faire un film, et puis aussi de transformer aussi les choses. Et aujourd'hui, quand on vit des moments aussi durs, là pour le coup, je parle de ma sœur, c'est quelqu'un qui a transformé ça. Et elle ne l'a jamais oublié, ne l'oubliera jamais. Mais par la suite, elle est devenue sophrologue, et c'est quelqu'un qui a transformé cette douleur, pour finalement aider les autres, quoi. Et je pense que voilà, les deuils nous aident à être meilleurs quelque part. J'ai l'impression.
Il y a plein de formes de deuil.
Il y a plein de formes de deuil, évidemment. Ouais, ça c'est sûr.
On va peut-être passer au sujet qui m'interpelle beaucoup, parce qu'on en a déjà parlé ensemble.
Ouais.
L'hypersensibilité.
Ah, d'accord.
Si ça t'intéresse, enfin, si c'est pas trop tôt pour en parler.
C'est un sujet qui me passionne.
Mais moi, ça me passionne aussi, en fait, parce que. Non, attends, juste avant,
oui.
Il y a un parallèle que je voulais revenir sur un truc. T'as été livrée à toi-même très jeune, etc.
Ah bah c'est vrai, ça on a...
Non mais c'est vrai que on est un peu passé du coca.
Il y a une petite digression, oui.
Non mais c'est qu'en fait, je fais le parallèle avec la manière dont tu as eu d'être papa.
Ouais.
Tu vois, et je suis toujours intéressée par savoir comment on devient papa si on n'a pas eu un modèle de papa, entre guillemets, tu vois, traditionnel, enfin... J'aime pas ça parce qu'il n'y a pas de tradition, il y a mille façons d'être, enfin il y a autant de papas qu'il y a de façons d'être papa. Mais ça peut peut-être intéresser les papas aujourd'hui de savoir comment on fait si on n'a pas eu un modèle référent de...
Écoute, c'est une bonne question parce que...
Il n'y a peut-être pas de réponse exacte.
Ah
hein,
il y a la réponse liée à l'expérience. En fait, moi j'avais aucune idée de comment j'allais être père. Alors il se trouve que le hasard fait que j'écris à ce moment-là un film qui s'appelle Papa, où en fait je me fais une sorte de projection du père idéal que j'aimerais être, quelque part.
D'accord.
Et en même temps, un peu du père idéal que j'aurais aimé avoir. Donc, d'accord, je me prépare à ce moment-là de façon instinctive au travers de ce film. Et puis, ma compagne tombe enceinte à ce moment-là. Et puis, ma fille naît. Et là, je vous ai raconté l'épisode de la naissance. Je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'être père. Non pas que mon père n'avait pas été père, mais mon père avait perdu son père très tôt et ma mère avait perdu sa mère très tôt. Donc, tous les deux avaient un petit problème de référent, un peu absent, quoi. Okay. Donc, ils avaient un peu improvisé leur rôle de parents. Et ils avaient été des parents un peu particuliers avec moi. C'était des parents qui m'avaient un peu laissé... un peu en freestyle, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient passionnés par leur vie et ils pensaient que leurs enfants allaient très bien se débrouiller tout seuls. Donc moi j'ai été un tout petit peu livré à moi-même à partir de 10 ans où on me disait bon maintenant t'es un grand, tu fais ta vie quoi. Et donc moi quand je deviens père, forcément je me dis non, je vais pas reproduire ce schéma. Donc mais en même temps, j'ai pas les outils, quoi. Je sais pas trop comment on s'y prend. Et en fait, je pense que il y a pas de méthode. En fait, il faut juste se laisser aller et lâcher prise et se dire, il y a un enfant qui est là, qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être élevé, qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être cadré. Et tout ça vient de façon très logique. Et que tous les questionnement que j'avais sur comment j'allais être père, en fait, une fois qu'on est dans l'eau, on nage, hein, donc il faut y aller, quoi.
Tu fais un lien, je reviens du coup aux hypersensibles, tu fais un lien au fait d'être adulte trop tôt et être hypersensible ou pas? Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire, ouais, complètement.
Être confronté enfant à des sujets d'adultes,
ouais.
Est-ce que ça déclenche ou pas? Moi, je n'y connais rien en hypersensibilité, j'ai pas lu de bouquin particulier, etc., mais vu qu'on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus aujourd'hui, tu fais un lien ou t'en fais pas?
Bien sûr. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais aucune conscience de mon hypersensibilité. Le seul truc que je savais, c'est que j'avais des analyses et des angoisses qui n'étaient pas des angoisses de mon âge, ouais. Quoi. Parce que j'avais, par exemple, très peur de la mort très tôt. J'avais des angoisses aussi de ne pas me réveiller. Donc, du coup, j'avais des tocs, tu vois, le matin. Enfin, le soir, avant de me coucher, je vérifiais. J'avais une sorte de circuit comme ça que je faisais tous les soirs où j'allais checker mes réveils pour voir. Et je dis bien mes réveils parce qu'il y en avait plusieurs. Au cas où il y en a un qui tombe en panne. Donc, je checkais les réveils. Puis après, je me levais, j'allais faire pipi. Après, j'allais vérifier si la porte en bas était fermée. Après, si le gaz était éteint, puis je remontais, j'allais me coucher. Donc, c'était un vrai truc de toc. Ouais. Donc, ça, c'est des angoisses très fortes d'enfants. Mais d'enfants qui a peur de la mort. Hein. Donc, ça, c'est un truc typique des hypersensibles. C'est-à-dire que les enfants hypersensibles ont une notion de la mort et même ont des réflexions métaphysiques bien avant les enfants qu'on appelle entre guillemets normaux pensants. Je déteste ce terme, mais bon, c'est comme ça. Ils ont une sorte de sensibilité particulière. Et donc c'est souvent des enfants angoissés. Ouais. C'est des enfants qui sont hyperactifs souvent. Donc on confond l'hyperactivité et l'hypersensibilité. Donc ça, parfois, il y a des erreurs d'aiguillage parce que il y a des enfants qui sont hypersensibles mais qui sont pas hyperactifs. Et simplement, bon, bah voilà, ils adorent être sollicités, ils adorent apprendre plein de choses, ils sont un peu surexcités et on pense qu'ils sont suractifs, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc moi, j'étais évidemment un gamin très speed. J'étais aussi un gamin très intéressé par tout. Tout m'intéressait. En revanche, j'étais pas intéressé par l'école. Tu vois, l'école, alors là, je comprenais pas du tout ce qu'on voulait m'apprendre. L'idée de me retrouver tous les matins, aller au même endroit, le côté train-train de l'école, le côté avoir le même instit, pour peu que tu tombes une année sur un mec qui t'emmerde, tu t'ennuies. Bref, l'école, je suis passé à côté. J'ai pas du tout pris de plaisir à aller à l'école. Autant j'adorais l'école pour les copains, mais alors l'école pour apprendre, non. Parce qu'en fait, ce qu'on m'apprenait ne correspondait pas à ce que j'avais envie d'apprendre, bizarrement. Mais c'est, une fois de plus, c'est pas de la faute des autres, c'est un peu moi qui attendais autre chose, mais intuitivement, hein, pas. Et donc, je m'ennuyais à l'école. Je comprenais ce qu'on me disait. Et puis à l'oral, j'étais plutôt bon. Puis je la ramenais parce que j'étais plutôt grande gueule. Mais dès qu'il s'agissait de bosser, de me concentrer, j'y arrivais pas. En fait, c'est un problème d'hypersensible. On a souvent des problèmes de concentration. Et puis il y avait aussi un autre problème que j'avais quand j'étais gamin, c'est que j'avais de la.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dyslexie. Et donc, j'étais totalement désorthographié. Et donc, plutôt que d'avoir un orthographe normal, moi, j'ai réinventé l'orthographe. Et j'étais le champion départemental des fautes d'orthographe, quoi. Et j'en faisais un complexe de dingue, parce que je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'imprimais pas, comme la dyslexie, j'imprimais pas l'orthographe. Et donc, il a fallu que je fasse un gros travail par la suite pour corriger cet orthographe. Et aujourd'hui, j'ai un orthographe normal, pas excellentissime, mais normal. Mais il a fallu que je règle ce problème. Parce que mes parents ne s'étaient pas vraiment rendu compte que je partais en sucette, quoi.
Comment tu t'es rendu compte que tu étais un hypersensible et que tu as mis un mot sur ça?
En fait, en voyant ma fille. C'est vraiment en voyant ma fille s'énerver, par exemple. Ma fille, en jouant au bowling, elle voulait être la meilleure. Mais il n'y a pas un moment où elle s'est dit, il faut d'abord que j'apprenne à faire du bowling avant d'être la meilleure. Non, il fallait qu'elle cartonne. Et si elle ne cartonnait pas, elle s'énervait comme une dingue. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même des comportements. Ça me fait penser un peu au... Pourquoi elle a cette frustration? J'ai essayé de comprendre cette frustration. Donc j'ai commencé à lire sur les enfants surdoués, me disant que c'était peut-être ça. Et puis en fait, c'était pas ça. C'est que c'est une enfant hypersensible et qu'en fait, elle veut tout de suite cartonner, elle veut tout de suite réussir. Elle se donne une sorte de challenge de dingue. Et il faut que ça marche. Quand elle entreprend quelque chose, il faut que ça fonctionne. Elle va au bout des trucs. Donc j'ai compris en lisant que ma fille était hypersensible, puis en fait, petit à petit, j'ai compris que ça venait de moi et de sa maman peut-être aussi, et j'ai compris par la suite que
ça
mon hypersensibilité,
toi, c'est pas génétique comme truc.
Ben si, en fait, ça se transmet. Et si, l'hypersensibilité se transmet, et souvent, quand il y a un hypersensible
c'est
dans la famille,
c'est dans tes gènes.
Ouais, le papa ou la maman est hypersensible. Et donc, c'est souvent quelque chose qui se transmet de génération en génération.
Mais il y a des tests aujourd'hui pour vérifier si on est hypersensible. Enfin, comment on...
Alors,
ça
vraiment.
Se diagnostique, ça se...
Non, là-dessus, il y a deux écoles. Il y a une école, il y a une psy française qui s'appelle Sio Fachelin, qui fait passer des tests de QI. Parce qu'elle estime qu'en fait, l'hypersensibilité est liée à l'intelligence. Alors effectivement, il y a pas mal d'hypersensibles qui sont très intelligents, qui ont des très gros QI, mais il y en a d'autres qui plantent les QI parce qu'ils sont hyper dans l'émotion et que tout d'un coup, dès qu'ils sont dans une situation d'examen ou de contrôle, ils plantent leur examen. Donc là, je dirais que ça fonctionne pas trop parce que on peut pas les déceler, ces gens-là, parce que moi, typiquement, j'ai passé un QI. Et tout ce qui était l'ordre de l'imagination, ça allait, mais dès qu'il y avait des maths, des séries de chiffres à retenir, je me plantais totalement parce que c'est pas du tout mon truc. C'est là-dessus que je pense que le QI n'est pas suffisant pour déceler les hypersensibles. Je pense qu'il y a suffisamment maintenant de spécialistes qui connaissent bien le profil des hypersensibles. Et qui donnent un diagnostic au bout d'un moment et ils disent vous êtes hypersensible, c'est super, tant mieux pour vous. Moi je trouve que c'est super d'apprendre qu'on est hypersensible parce que ça permet de comprendre plein de comportements qu'on a jusqu'à maintenant qu'on n'arrivait pas à comprendre. Ça permet aussi de un peu rationaliser sa pensée et de se dire que bon, ok, je suis hypersensible donc je suis hyper brouillon dans ma tête. Ça c'est sûr. Donc je vais essayer un tout petit peu de...
D'accord. Dans des marges de progression.
Ouais. Donc parce moi, que... ça m'a aidé à être plus clair dans ma tête. Parce que comme j'avais un esprit qui fonctionnait tout le temps.
Ouais, c'est ça aussi le grand trait commun. C'est, que
ouais,
ton,
c'est qu'on
ton
a une sorte de moulinette qui ne s'arrête jamais. Ce qui fait que on a du mal souvent à prendre des décisions. On a du mal à choisir au restaurant. On a du mal à
choisir ses partenaires aussi, non ?
À choisir ses partenaires aussi. Alors ça, c'est un autre phénomène. Pourquoi est-ce que l'hypersensible a du mal à choisir ses partenaires ? C'est pas parce que il sait pas choisir, c'est que souvent il est partagé entre le fait de se sécuriser dans une relation et donc de chercher une relation assez, je dirais, stable. Et en même temps, il s'ennuie très vite dans une relation. Donc, il a du mal à trouver le juste équilibre entre la stabilité et le besoin de renouveau permanent.
Est-ce que c'est pas un trait commun à plein de gens
Sûrement.
Au-delà des hypersensibles.
Ah oui, sûrement. De toute façon, moi, je pense que les hypersensibles, c'est pas du tout une caste à part. Hein.
J'ai entendu dire qu'il y avait 20% ou je sais pas. C'est
ce qu'on dit. On dit 18% à peu près de la population est hypersensible. Moi, je trouve ça super. Voilà. Et ce qui est très important pour ceux qui vont écouter ce podcast, c'est que il faut pas du tout qu'ils se sentent exclus quand il y a un hypersensible qui dit moi je suis hypersensible et j'ai l'esprit qui va vif, etc., qui va vite, etc.
Et toi, pas t'es du... nul par rapport à moi.
Parce qu'en fait, il y a pas de mieux et de moins bien. C'est super aussi d'être pas comme ça, parce que avoir une pensée linéaire, ce qui est le cas des autres, permettent d'être plus direct dans ses objectifs, alors que l'hypersensible a une pensée en arborescence qui est une pensée assez imaginative, mais qui peut vite foutre le bordel.
Et alors moi, j'ai entendu dire que les hypersensibles se dirigeaient en général vers ce qu'on appelle, dans le terme classique, pervers narcissique.
Oui, effectivement. Souvent, on tombe dans nos histoires sur des pervers narcissiques qui sont un peu l'opposé de nous-mêmes. Et qui sont attirés par l'esprit très vif, très créatif et très généreux de l'hypersensible. Et l'hypersensible, lui, comme il a une sorte de surempathie, il veut absolument sauver les gens. Et quand tout d'un coup, il tombe sur quelqu'un qui a des failles comme le pervers narcissique, il se dit « Waouh, il est génial !» ou « Elle est géniale !» À la fois, elle est sombre et en même temps, elle est lumineuse. À la fois, elle est drôle et en même temps, elle est terriblement obscure. Donc ça surexcite l'hypersensible parce qu'il se dit « Oh, elle est géniale, cette personne, je ne vais jamais m'emmerder avec elle. » Le problème, c'est que le pervers narcissique, ça ferait l'objet d'une autre émission. C'est quelqu'un qui a tendance à pomper toute l'énergie de la personne qu'il a en face et de laisser la personne, une fois qu'elle est vidée, comme une carcasse par terre, quoi. Donc, oui, effectivement, l'hypersensible se retrouve souvent dans des histoires avec des pervers narcissiques. Et c'est difficile pour lui de s'en sortir parce qu'il est pris par la culpabilité et en même temps par il a du mal aussi à s'en sortir parce qu'il a plus d'énergie, etc., etc. Donc, oui, effectivement, si vous êtes hypersensible, faites attention à...
Moi, je suis un petit peu... En fait, j'ai un feeling te concernant.
Ah.
C'est que je pense que tu as une part contributive dans la société à avoir. C'est-à-dire que tu as eu ton parcours, tu vas continuer à certainement écrire, réaliser, jouer. Mais je pense que tu as des choses à dire. Tu vois,
ah bon.
Indépendamment. Non, mais d'accord. Indépendamment du rôle d'acteur, etc., et du rôle de ce que fait un acteur ou un réalisateur ou un artiste au sens large, j'ai cru comprendre que tu avais des combats, que tu avais une affinité avec le monde humanitaire au sens large. Enfin, voilà, et j'aimerais bien que tu nous en parles.
Bah, en fait, à partir du moment où j'ai eu 50 ans, je me suis dit, bon, ok, c'est bien. Maintenant, jusqu'à maintenant, t'as pensé à toi, t'as pensé à ton parcours, t'as pensé à ta fille, tout ça, ok, c'est super. Maintenant, il faut penser aux autres. Et c'était pas qu'une résolution, c'était un besoin. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de m'investir dans des causes qui me touchent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec le Jane Goodall Institute, qui est donc un institut international fondé par Jane Goodall, qui est une primatologue qui a construit toute sa carrière sur l'observation des singes et la défense des singes en Afrique centrale, et qui par la suite a ouvert sa cause à tout ce qui environnait les singes, c'est-à-dire à la fois les populations et la nature et voilà. Et aujourd'hui, son combat, qui est très très connu aux États-Unis comme en Angleterre, comme dans tous les pays anglo-saxons, est très large et touche vraiment va bien au-delà des singes. Donc voilà, je suis parrain de cet institut et j'essaie de, à ma manière, de leur filer un coup de main et de communiquer sur eux dès que je peux. Je suis en contact avec l'UNICEF pour travailler avec eux, leur filer un coup de main s'ils ont besoin de moi, communiquer sur des opérations qu'ils peuvent lancer, et surtout j'aimerais développer un projet pour Haïti en particulier, parce que très impliqué par Haïti. Je suis aussi assez impliqué par comment je pourrais dire, une résolution qui a été prise par l'ONU qui s'appelle The Global Goal, c'est-à-dire ces 17 résolutions qui ont été votées par l'ONU par 193 pays, qui sont des vraies résolutions importantes pour pouvoir améliorer notre vie sur Terre, quoi. Et ça, j'essaye aussi un tout petit peu de communiquer autour de ça. Et puis, je ne sais pas, il y a au gré des rencontres, s'il y a des combats à défendre, moi j'y vais. Moi je trouve ça super, je trouve que maintenant, plus je vieillis, plus j'ai envie de me consacrer aux autres et moins j'ai envie de m'occuper de moi quelque part. On s'occupe toujours de soi, quoi qu'il arrive. Hein. Ça,
c'est important de s'occuper des autres quand même.
Bah, je crois que c'est surtout...
Moi, je pense qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi-même d'abord.
Oui, exactement. Donc ça, on va dire que ça s'est fait. On est passé par un psy, on a fait plein d'expérimentations à base d'hypnose, de MDR, de FT, de tout ça. Donc, on va dire qu'on va bien aujourd'hui. Et maintenant, il est temps de s'occuper de celui qui va un peu moins bien.
Qu'est-ce que tu penses de la France? Je sais que cette question peut paraître complètement absurde et trop large, mais tant pis. C'est quoi ton feeling aujourd'hui quand on te parle de la France, autant socialement que ce que tu ressens dans l'énergie globale, on va dire?
Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un vieux pays qui est très difficile à réformer parce que voilà, c'est un pays qui a son rythme et que je trouve que moi qui ai voté Macron deux tours quand même, donc on peut pas dire que je sois, je trouve qu'il y va un peu fort, il y va vraiment avec des électrochocs et même si ce pays a besoin d'être réformé, on n'est pas obligé d'être aussi violent. Ça, c'est mon sentiment.
T'as quoi comme exemple en tête, par exemple?
Tout ce qui se passe actuellement avec avec les retraites, avec je pense fondamentalement qu'effectivement il faut réformer les retraites, mais pas de cette façon. Je trouve que tout est trop violent en fait. Et ce qui me choque, c'est que ils nous expliquent qu'il faut réformer. Alors ok, mais tu dis bah bien sûr, on est d'accord. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir des méthodes aussi expéditive et aussi violente? Non, ça je suis moins d'accord. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un pays qui est un tout petit peu bousculé et ça me chagrine. Je trouve aussi que c'est un pays qui se plaint beaucoup aussi parce que l'air de rien, on est quand même
très privilégié,
très très bien loti par rapport au monde entier. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui est magnifique, qui a des infrastructures de dingue, même si le service public est moins bon qu'avant, que ce soit les hôpitaux, les postes, la police, etc. Tout ça est un peu moins efficace, peut-être, mais en même temps, on a un déficit qui est tel qu'à un moment ou un autre, on est obligé de s'attaquer et faire des économies. Donc forcément, ça réduit l'efficacité de ce service public, mais quand même, on est quand même dans un pays qui fonctionne bien. Et là-dessus, je pense que il faut qu'on arrête un tout petit peu de se regarder le nombril et qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, quoi. Quand on voit l'état du Venezuela, quand on voit l'état du Chili, quand on voit l'état du Liban, quand on voit l'état de voilà, je parle de pays qui fonctionnaient avant et qui fonctionnent plus, hein. Donc évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont encore plus mal, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je voudrais juste dire, hey, les gars, oh, regardez un peu ce qui se passe autour, quoi. Et arrêtons de tout le temps dire que la vie est horrible en France, quoi, parce qu'elle est pas horrible. On a une vie qui est compliquée. Oui, effectivement, il y a des grèves. Oui, il y a des mouvements sociaux. Oui, il y a des contestations. Oui, il y a des manifestations. Oui, il y a des violences, etc. Oui, d'accord, ok. Mais on vit dans un pays qui est quand même plutôt pas mal foutu, quoi. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Voilà, donc voilà ce que je pense de la France. Moi, c'est un pays qui voilà, à chaque fois que je quitte Paris, je suis assez content. Et au bout d'un moment, ça me manque. Donc, je pense que toute ma vie, je vais vivre ici. Et puis, je suis content aussi de pouvoir faire mon métier dans ce pays. C'est quand même un des rares métiers des rares pays où on peut faire du cinéma comme on en fait. Donc, tout ça est plutôt très positif, quoi. Après, je ne retire rien au fait qu'il y en a qui en bavent, pour qui les fins de mois sont hyper dures, ça c'est sûr. Et là-dessus, je vais pas me la ramener en disant, les gars, smile, d'accord. Évidemment que je prends en considération les difficultés que vivent ces gens. Je parle juste de l'état général du moral du pays et de dire, écoutez les gars, ok, ouais, c'est pas simple, mais essayons de nous dire que... Et puis on pourrait s'entraider peut-être un peu plus, et puis on pourrait essayer de communiquer un peu plus. Tout ça est un peu peut-être illusoire et naïf, mais voilà, ça revient à la réflexion qu'on avait au début. Est-ce qu'on peut pas réformer ce pays d'une autre manière que à l'ancienne? C'est ça qui me vient à l'esprit. Quand En Marche est apparu, ils avaient des grandes envies de changer la politique. Or, on s'aperçoit que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont exactement dans les mêmes schémas qu'avant. Et ils refont exactement les mêmes conneries que faisaient ceux qui étaient là avant. Et c'est là-dessus que j'ai été choqué par rapport justement à l'histoire des congés pour les parents qui perdaient leur enfant. Non, les gars, si vous avez été élus pour faire la politique autrement, là, pour le coup, vous êtes en faute. Donc, c'est là-dessus que je pense qu'il faudrait quand même, et je pense qu'ils vont se prendre une bonne claque au municipal, qu'ils se rendent compte que s'ils ont été élus, c'était pour faire une politique différente et que finalement, ils la font vraiment à l'ancienne, quoi.
Et sans avoir de chiffres en tête, juste à l'instinct, tu penses que ce pays devient plus raciste qu'avant ?
En fait, je pense pas. Je pense que les gens le disaient moins. Je pense que voilà, c'était un peu tabou. Et qu'aujourd'hui, la parole se libère parce que le populisme se répand. Et que des gars comme Trump ou Erdogan ou Poutine, tout d'un coup, voilà, se lâchent, quoi. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de complexe à dire que c'est la faute de l'étranger. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait plus de racistes. Je pense qu'il y a juste plus de gens qui la ramènent, quoi. Et c'est triste. Et c'est triste parce que, qu'est-ce qu'on, enfin, moi, j'essaye à mon échelle de me révolter. J'essaye d'écrire aussi là-dessus. C'est le thème de mon prochain film d'ailleurs. Mais en même temps, ce mouvement est tellement plus fort, quoi. C'est-à-dire que quand on voit comment Trump se permet tout. Et plus il se permet, plus finalement il gagne en popularité, parce qu'il va être réélu, hein, c'est ça qui est génial. C'est un peu décourageant. Mais bon, voilà, je pense que le combat n'est pas perdu, c'est une lutte de chaque instant. Et moi, si Marine Le Pen est élue, je resterai en France. Hein, et je lutterai de façon démocratique et républicaine contre les idées de cette dame, hein, ça c'est sûr.
Tu veux nous parler de ton film ou tu veux pas en parler?
Ouais, je peux en parler.
C'est possible ou pas?
C'est un film. Ouais, je peux en parler. C'est pas, il y a rien de secret. C'est une comédie dramatique qui parle d'un paysan de 65 ans, très fermé, très obtus, très bourru, raciste, qui surprend un jour sa fille dans la grange avec le commis arabe. En train de faire l'amour, et lui, le paysan, il pète un câble, quoi. Ça, pour lui, ça le fait pas, c'est pas jouable, et il est tellement énervé qu'il fait un AVC. Et quand il se réveille, 3 jours plus tard de son coma, il ne parle plus qu'arabe. Donc, c'est un problème. Et en fait, c'est un syndrome qui existe, qui s'appelle le syndrome du langage étranger.
Ça, c'est incroyable.
Ouais, qui touche incroyable. Des personnes frappées de coma, enfin, de suite à un AVC ou un. Ouais. Ou un trauma, ils se réveillent et ils parlent une langue qu'ils ont apprise dans leur enfance, dans le passé. Et ça remonte. Et en fait, c'est que le cerveau libère une partie de la mémoire qui était un peu enfouie. Et donc, plutôt que de le traiter en comédie, comme ça a été un peu traité par Danny Boone avec la ch'ti de famille, où tout d'un coup, il se réveille avec l'accent ch'ti, moi, je le traite plus sur le problème que va avoir ce paysan dans ce petit village qui se met à parler arabe du jour au lendemain. Quelles sont les conséquences pour lui, pour sa famille? Comment est-ce qu'il va être rejeté? Et en même temps, lui, il va devoir faire un travail sur d'où lui vient cette langue. Donc, c'est un travail de mémoire qu'il va devoir faire et une recherche sur son passé. Il va tomber sur un secret de famille. Donc, voilà.
Ça va s'appeler comment?
Alors, ça va s'appeler L'homme sans histoire.
Ouais.
C'est à la fois l'histoire d'un monsieur tout le monde et puis en même temps, c'est un monsieur qui n'a pas d'histoire et qui va devoir retrouver son histoire.
Tu as une idée de quand est-ce que ça peut sortir?
Eh ben, on va dire que ça va dépendre un peu des gens qui vont m'aider financièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas.
L'appel est lancé.
Voilà. Non, c'est de plus en plus compliqué de faire des films aujourd'hui. Surtout les films.
C'est vrai.
Du milieu, hein, c'est-à-dire les films à moyen budget. Donc ça prend du temps. Je sais que j'ai Isabelle Nanty et Gérard Depardieu qui sont partants. C'est génial, c'est extraordinaire. Les diriger tous les deux, ce serait extraordinaire. Simplement, bon, ça prend du temps de réunir les sous. Donc ça peut prendre un peu de temps, cette affaire. Voilà. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, faire des films. C'est un peu compliqué. Toute l'industrie du cinéma a changé. Donc, ça prend un peu de temps.
T'as une pièce de théâtre aussi, je crois. Mais ça, je sais pas si on a le droit d'en parler.
Oh, oui, non, il n'y a rien de secret. Effectivement, à la rentrée, je vais rejouer au théâtre en septembre.
Alors, avec ça, Richard Berry, n'est-ce pas?
Oui, avec Richard Berry. Une pièce de Sébastien Thierry qui est un auteur hyper drôle. Qui fait
Check-up.
La pièce va s'appeler Check Up et c'est l'histoire d'un homme qui reçoit une convocation pour se rendre dans un hôpital pour faire un check-up. Donc cet homme, c'est Richard Berry, et en fait il va se retrouver dans une sorte d'engrenage complètement dingue où il va se retrouver, non seulement il va faire un check-up, mais après il va se retrouver dans une chambre d'hôpital et tout d'un coup on va lui dire qu'il est malade, etc. Donc c'est une sorte de cauchemar un peu kafkaïen mais drôle, très absurde, que va vivre ce personnage. Et moi je joue son voisin de chambre complètement perché, et on est venu me chercher et j'étais le premier surpris, quoi. Je me suis dit mais pourquoi ils viennent me voir, en fait. Et ça m'a fait plaisir. Mmh. Et ça fait 20 ans que j'ai pas fait de théâtre.
C'est génial.
Et donc voilà, ça va être mis en scène par Sébastien, Ladislas Chola, et qui est un super metteur en scène. Tout ça dans un beau théâtre sur le Grand Boulevard. Mmh. Donc je suis ravi, en fait. Je trouve ça très rigolo. Voilà, donc ça c'est le projet.
Est-ce que t'as la question un peu bête, mais une maxime ou un slogan ou un truc une citation ou,
ah oui.
Tu vois, enfin, est-ce que t'en as une qui te vient en tête? On en a, enfin, on en a tous beaucoup, je pense. Mais est-ce que t'en as une en, tu vois?
Oui, j'en ai une. J'en ai une. Je suis tombé sur une citation d'un auteur argentin qui s'appelle Borges et que j'adore parce que elle me définit vraiment pas mal. Il disait, en moi, il y a deux personnes et celui que je préfère, c'est l'autre. Et wow. C'est tellement moi, quoi. C'est-à-dire que moi, je me sens tellement...
C'est dur.
C'est dur, mais c'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, moi, je suis dans une dualité permanente. Ma vie est une sorte de ping-pong entre les deux moi. Il y en a un qui est plutôt un moi plutôt assez renfermé, assez plan-plan, assez avec plein de rituels et de trucs comme ça. Et puis, il y a un autre moi qui est le moi qu'on a plus connu à l'époque des Robins, qui est un peu... trublion, quoi. Et je navigue tout le temps entre ces deux personnalités qui sont la même, en fait, hein, mais même moi, parfois, je suis un peu crevé de faire le parcours entre les deux, quoi. J'ai l'impression de faire un match de tennis tout seul, mais à chaque fois en allant de l'autre côté, quoi. Donc, j'aime bien cette
belle,
citation de Borges.
Ouais. T'as deux ou une grande question qui te perturbe en ce moment?
Une grande question?
Ouais.
Ah ouais, mais moi j'en ai toujours des questions
et que t'as toujours pas de réponse auxquelles tu n'as toujours pas de réponse. Tu vois, enfin un truc qui te, tu vois, enfin un truc qui te porte où tu te dis tiens.
Bah par exemple, je suis intimement convaincu que à la question y a-t-il une vie après la mort, eh bien moi je pense qu'en fait il n'y a pas une vie, il n'y a pas une mort, il y a autre chose. Voilà, mais c'est un questionnement permanent. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune réponse, aucune preuve, aucune affirmation, et ce n'est que ma réflexion personnelle. Mais j'aime bien l'idée de me dire, ouais, moi j'aime bien le principe un peu de la pensée bouddhiste qui consiste à se dire qu'on vient faire une sorte d'apprentissage sur Terre pour essayer de comprendre quelque chose, et puis après on repart sous une autre forme pour continuer à apprendre autrement. Ça, j'aime bien l'idée. Mais c'est que voilà, hein, une fois de plus, c'est que moi, quoi. Voilà. Ça, c'est les questionnements réguliers auxquels je peux me confronter, ouais.
Partage à 100%.
Ok.
Mais tu t'en fous.
Non, j'aime bien. Non, mais ça ne me surprend pas. Je pense que tu étais aussi une hypersensible, donc ça me surprend guère, quoi, en fait.
Bon, on en a parlé certainement. Tu vas peut-être faire un lien, mais tu as une sorte de coup de cœur en général, je pose coup de cœur, coup de gueule.
Ouais.
Mais coup de gueule, je pense que.
Bah, les coups de gueule, je les ai déjà donnés. Ouais. Hein, j'ai un peu. Attends, est-ce qu'il y a déjà.
Il y a un autre coup de gueule,
attends, est-ce que je réfléchis?
Si on peut péter la gueule.
Attends, je réfléchis. Si, parce que j'ai eu un. Un petit énervement il y a pas très longtemps, je me suis dit mais attends c'est quand même ouf cette histoire et non ça me vient pas à l'esprit, j'ai déjà voilà, j'essaye de voilà pas trop me mettre en colère tout le temps.
Il y a un coup de cœur récent, peut-être une pièce de théâtre, un bouquin,
oui alors ouais une pièce de théâtre voilà ouais. J'ai été voir une pièce de théâtre, j'ai été voir Édouard Baird au théâtre.
Ouais, j'ai très envie d'aller voir.
Et ça c'est formidable,
j'adore Édouard Baird.
C'est formidable parce que moi je connais bien Édouard Baird puisqu'on était en cours de théâtre ensemble et puis voilà on faisait partie de voilà on était élèves et en même temps amis à cette époque là et puis par la suite on s'est recroisés beaucoup et ce qui m'a énormément touché en le voyant sur scène c'était que voilà, il avait parfaitement trouvé son centre, quoi. Et que le Édouard qu'on a connu, très exubérant, très comme ça, un peu dandy, de Saint-Germain, etc., etc., il est toujours comme ça. Mais en même temps, il a pris aujourd'hui du coffre, il a pris une vraie profondeur et surtout, il a plus peur d'aller dans des contrées un peu sombres de sa personnalité que je trouve vachement intéressante. Et puis, ce garçon hyper cultivé, voilà, qui cite Thomas Bernhard ou tout d'un coup, il y a qui d'autre dans, il cite qui, il y a du Sartre, il y a de tout, il y a dans son spectacle. C'est très riche.
Comment s'appelle le spectacle?
Ah, je sais pas, je crois que ça s'appelle bon, en tout cas, c'est Édouard Baird au théâtre Antoine. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est plein à craquer. C'est ça qui est extraordinaire. J'étais comme un fou. Je me disais, putain, ça, c'est cool.
Il a une cote d'enfer.
Ouais. Mais parce que c'est à la fois intelligent, c'est drôle et extrêmement bien joué parce que c'est totalement pour lui. En plus, la petite anecdote, c'est qu'il a créé ce spectacle en un mois. En fait, il y a eu une défection dans la salle. Et Stéphanie Bataille, la directrice, l'a appelé en lui disant « J'ai besoin d'un spectacle dans un mois ». Et donc, il s'est enfermé dans le théâtre, il a dormi dans le théâtre, il a dormi dans sa loge. Et il a trouvé des textes qu'il a réunis. Et en même temps, il y a amené aussi sa propre, écriture.
J'ai l'impression qu'il y a un retour du théâtre. Je me trompe peut-être, mais à une époque, on était tous très cinéma. Mais j'ai le sentiment que le théâtre a un regain.
Peut-être
que je me trompe, je ne sais pas si tu sens ça, mais parce que justement, pourtant j'ai bossé un tout petit peu dans le cinéma à une époque, mais je me marre plus en fait au cinéma. Je vois plus de comédies qui me font mourir de rire, tu vois. Alors je suis peut-être un peu compliquée comme film, mais j'ai plus vu de. Enfin, je sais pas, il y a un film qui t'a fait marrer récemment ?
Oui, moi j'en ai vu un, mais c'est un film américain.
Oui, mais je te parle de films français, de comédies françaises, tu vois.
Alors, moi, je suis un peu plus sévère en comédie française parce que du coup, moi, comme j'en fais, je suis pas très bon public parce que j'ai tendance à être un peu à regarder un peu le moteur plutôt que regarder la voiture. Quoi. Ouais. Donc, je suis vraiment pas bon public pour ça. Peut-être que les gens ont envie de proximité, peut-être.
C'est ça qui plaît
au théâtre.
C'est
quoi.
Ça que je ressens.
Dans un monde où aujourd'hui on ne communique que par Internet et qu'ils ont besoin de se réunir et d'avoir
quelqu'un en
chair et
en
os en face. Ouais. Ouais, peut-être.
Et quoi le film très... Pardon.
Ah, pardon. Ouais. Et puis, non, je crois aussi que le théâtre privé à Paris et en province est beaucoup modernisé aussi. Parce qu'avant, il y avait deux clans qui étaient le théâtre public et le théâtre privé. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, les deux se mélangent, quoi. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions différentes au théâtre. Mmh. Et je trouve le théâtre aujourd'hui effectivement très, 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 très vivant, très, très actif. Alors, la comédie que j'ai vue récemment s'appelle Jojo Rabbit, qui est un film complètement dingo américain, indépendant, très dans la veine des Wes Anderson, façon Rushmore et la famille Tannenbaum. Et qui traite d'un sujet très particulier, d'un petit enfant de 10 ans qui est dans la jeunesse hitlérienne, qui a comme ami imaginaire Hitler, donc à qui il discute, il est une sorte de Hitler qui il discute en permanence, qui est une sorte de Hitler à la Chaplin, c'est-à-dire un personnage comme ça très outrancier, très caricatural. Et puis, il va tomber amoureux d'une petite juive que héberge sa maman. Et en fait, lui, il tombe sur elle comme ça dans le grenier. Et il va tomber amoureux de cette petite gamine. Et c'est une super belle histoire. C'est un très beau film qu'il faut absolument voir en ce moment. Et je l'ai vu au cinéma, Jojo Rabbit. Et il a quand même 6 nominations aux Oscars. Donc, il n'est pas passé inaperçu là-bas. Et je l'ai vu aux États-Unis et j'ai voulu le revoir en France parce que j'avais raté des trucs parce que je l'avais vu que en anglais et là c'était un peu plus précis avec les sous-titres et je le conseille chaudement.
On pourrait faire des podcasts très très longs avec toi. D'ailleurs, je t'encourage à faire ton podcast. Je sais pas.
Tu m'en as parlé la dernière fois, mais ça me tente énormément.
Je sens ce truc.
Oui.
Je sens que ça vient.
Je suis tout à fait d'accord.
Et je pense qu'il faut que tu te J'ai une conviction.
Okay.
Bon, après, je peux me tromper. Hein, mais
je vais t'écouter alors.
Mais on pourrait continuer des heures, mais je dois te libérer quand même parce que ça fait déjà une heure qu'on est. C'est incroyable.
J'ai pas vu passer.
Le temps est passé vite.
Ouais.
Mille merci, Maurice.
Merci
du fond
à toi,
du cœur,
Estelle. C'était un grand plaisir.
Belle route à toi.
Toi aussi, et merci. Plein de bonnes choses pour ce magnifique podcast.
Merci. Merci beaucoup.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.